Bon, eh bien, bonjour Thierry, on est ici au café Vélo La Roue Libre sur notre terrasse. Je suis en compagnie de Grégory, le responsable du magasin, et puis toi Thierry qui nous a fait un joli cadeau, une jolie exposition ce week-end. Tu es venu avec 8 vélos de collection, 8 vélos mythiques. Il y en a depuis 1923, le plus vieux, jusque les années 70. Et donc ça a pas mal attiré l'attention tout le week-end. On voulait marquer le départ du Tour de France cette année, donc c'était une belle exposition. Et on voulait profiter de ta présence pour enregistrer ce petit podcast. Et puis que tu nous expliques, peut-être pour commencer, comment toi tu es rentré dans le monde des collectionneurs de vieux vélos.
Alors bonjour, donc j'ai toujours été passionné de vélo, de course, voilà, mon père m'amenait dans les critériums d'après-tour, et donc je suis originaire de Bretagne, et dans le village où nous avions un champion cycliste renommé qui était François Lebihan, et mon père m'amenait assez souvent voir les courses de vélo. Donc, comme on dit, j'ai été vacciné avec un rayon de bicyclette dès mon plus jeune âge. Et le monde de la collection, je l'ai rencontré sur un forum qui s'appelle Forum Tonton Vélo, forum de vélo ancien, où j'ai pu rencontrer plusieurs autres collectionneurs. Et voilà, ça s'est fait naturellement.
Et alors, est-ce que c'est le plaisir d'avoir le vélo, de réparer le vélo, ou alors de rouler sur le vélo, parce que tu m'as raconté que tu participais à des courses spécialement dédiées aux vieux vélos, c'est ça ?
Oui, alors le plaisir, c'est déjà de dénicher le vélo lui-même, ensuite de pouvoir le rénover et de le remettre en état de fonctionnement. Pouvoir rouler avec, c'est gratifiant, donc j'ai pu participer 3 fois au Milan San Remo en vélo ancien avec une tenue d'époque. Donc les maillots sont confectionnés en Italie et on reste au plus près de ce qui se faisait à l'époque.
Donc les règles à l'époque, quelle est la règle ? Donc il y a des règles très strictes. Alors, par rapport au changement de vitesse.
Voilà,
par rapport...
les règles, c'est de participer avec un vélo de course. Jusqu'en des années 1930, c'est-à-dire sans dérailleur.
Okay.
Et ça, c'est la règle. Si vous venez avec un vélo muni d'un dérailleur, vous ne pouvez pas participer. C'est ce qui est fixé, un cahier des charges. Et donc, on fait ce Milan San Remo sur 3 jours, 2 étapes de 120 km et la dernière étape de 80 km. Et on arrive juste 2-3 heures avant les professionnels qui, eux, le font sur une seule journée.
D'accord. Mmh. Okay. Et alors, il doit y avoir une tolérance, parce que j'imagine que retrouver des roues de 1930, c'est peut-être pas facile. Il doit y avoir une tolérance par rapport à certaines pièces qu'on doit pouvoir refaire dans l'esprit, ou quel est le...
Oui, bien sûr. Un vélo qu'on va dénicher dans une vieille grange qui a des jantes en bois, par exemple, elles ne vont pas être opérationnelles pour rouler en toute sécurité. Donc, on va récupérer le moyeu et sur ce moyeu-là va être adapté des jantes en bois qui viennent d'Italie, avec à l'intérieur un renfort en Kevlar qui va nous permettre de rayonner la roue correctement. Donc oui, ce sera juste la seule chose qui sera pas d'origine, on va dire, sur le vélo.
D'accord, la seule chose, ok. Et donc après le maillot, donc c'est-à-dire le vélo, mais aussi on se fait plaisir avec les accessoires d'époque,
voilà.
Les petits bidons, les petits...
On essaye de trouver des gourdes d'époque ou sinon des répliques. Et on arrive à reconditionner des cale-pieds, des porte-gourdes. Ce sont des petits accessoires faciles à fabriquer.
D'accord. Donc raconte-nous un petit peu le quotidien d'un collectionneur. Par exemple, ces gourdes, ces vélos, ces roues. Comment est-ce que tu t'y prends pour les dénicher ?
Alors, il y a les sites Le Bon Coin. Sinon chez les brocanteurs, et parfois lors d'une exposition on a la chance de rencontrer des personnes qui ont chez eux un vélo, un accessoire, un ancien maillot et ils vous font plaisir en vous l'offrant ou on l'achète à un prix dérisoire. De temps en temps.
Mais donc, alors après, une fois qu'on a déniché, tu as toute la partie rénovation. Et je trouvais intéressant, tu m'expliquais le temps que tu mettais avec. Alors, j'ai retenu gomme, triple gomme pour l'aluminium et.
La paille de fer triple zéro.
Triple zéro,
pardon. Voilà, très fine, qui permet de rénover les meubles en bois notamment.
Ouais.
Donc cette paille en fer, on l'imbime soit de polish auto pour voiture ancienne, et on arrive à enlever les points de rouille qui sont sur le cadre de vélo, et il faut y aller très doucement pour pas abîmer les restes de logo d'époque qui existent encore sur le vélo. Sinon, on peut faire aussi la paille de fer triple zéro et du WD-40. Ça marche assez bien. L'idéal est de pouvoir conserver la peinture d'époque du vélo. On garde une authenticité du vélo ce n'est que mieux, quoi. Et certains collectionneurs n'hésitent pas à faire sabler le cadre et faire une peinture, une toute nouvelle peinture. Mais bon, je trouve que c'est un peu dommage.
Garder aussi la patine des ans,
voilà,
pour montrer ce qu'il a vécu, quoi.
Ouais. Ouais, tout à fait.
Et pour l'aluminium, tu me disais que c'était une gomme spéciale quand c'est les pièces en aluminium.
Je faisais avec toujours la paille triple zéro, là, la paille de fer triple zéro, et un produit qui s'appelle Belgum Alu, qui sert, on arrive à policher l'aluminium. La partie un peu nickelée, quoi.
D'accord. Et alors, tu es venu donc avec ces magnifiques vélos, mais aussi avec toute une bibliothèque de livres passionnants qui retracent l'histoire. Et alors, je me demandais si, parce que on a beaucoup parlé vélo, tu connais extrêmement bien toute l'histoire du vélo. Est-ce que pour toi, la collection de vélos, le fait d'avoir ces vélos mythiques, c'est aussi un petit peu une connexion avec certains coureurs, certaines époques? Est-ce que tu aimes rattacher ou est-ce que tu cherches certains vélos en fonction de certaines courses qui t'ont marqué?
Non, forcément, il y a des vélos qui ont plus d'importance que d'autres. Si on prend un vélo de la marque La Perle, cette marque de vélo va tout de suite être associée à un coureur, à des champions cyclistes comme Anquetil.
À 23 ans, Anquetil découvre le Tour de France. Il est encore Jaco le Tendre. Face à Nencini qui vient de gagner le Tour d'Italie, le voici dans l'équipe de France où il doit gagner son statut de leader. Darrigade, le fidèle, est là pour gagner des étapes et guider son ami Jaco. La victoire d'étape, Anquetil la veut dès le troisième jour. L'arrivée a lieu chez lui, à Rouen, devant les siens. Il part aux 500 mètres, l'affaire est entendue, il donne la victoire à la Normandie.
Alors, ce premier Tour de France se passe bien, en somme.
Bien, le début se passe très bien pour toute l'équipe de France et pour moi-même en même temps.
C'est ça, vous trustez absolument les victoires.
Bah oui, pour l'instant.
Je souhaite que vous continuiez. Merci,
on va essayer.
Anquetil n'a jamais franchi les Alpes. Dans la vallée de la Maurienne, il apprend la leçon. En bas du Galibier, on offre aux coureurs des bidons de champagne. Marcel Bidot, le directeur de l'équipe de France, voit avec consternation Forestier et Anquetil sacrifiés à Bacchus. La pente augmente. Nencini s'échappe avec Janssens, il creuse l'écart. Le peloton est à 5 minutes. Forestier, le nouveau maillot jaune, est à la dérive. Il tangue comme un pilier de comptoir. Anquetil, lui, se sent des ailes. Le champagne est son ami. Il s'élance seul derrière Nencini. Dans les 4 derniers kilomètres, il lui reprend 2 minutes. L'Italien arrive en haut du col. Anquetil roule sur ses talons. À Briançon, il a encore réduit l'écart. Le voici à nouveau maillot jaune. Il est leader de l'équipe de France.
Si on prend un vélo de marque Gitane des années 75, on va penser à Bernard Hinault, Van Dimp, et puis quoi d'autre comme marque qu'est-ce que j'ai ? Vélo de marque Silo, par exemple, on va l'associer facilement à Hugo Coblet. Donc, il y a des marques de vélo qui sont plus recherchées que d'autres. Mmh. Et, plus prestigieuse, on va dire.
Ouais, ouais, tu me parlais aussi du Armor que tu as.
Qui était... Oui, j'ai réussi à dénicher ce vélo Armor qui date de 1923. C'est un vélo tout complet, intégralement, quoi, complet dans son jus. Et comment dire, qu'est-ce que je veux dire sur celui-là ? Celui-là, il a la particularité d'avoir des jantes en bois et pas muni de dérailleur. Le dérailleur n'existait pas dans ces années-là, n'était pas autorisé sur le Tour de France. Donc c'est un vélo que je tiens beaucoup, quoi. Il est authentique, tout complet, tout dans son jus, quoi, comme on dit.
Et puis il y a des pièces mécaniques aussi qui ont une histoire, qui ont disparu. Je pense par exemple au changement de plateau, changement suicide, tu disais,
voilà,
que ça s'appelait,
c'est
ça ?
Oui, c'est le petit dérailleur suicide. Parfois, vous récupérez un vélo des années 50, parce que vous arrivez à le dater, et dessus, il va manquer cette pièce. Donc, tout le jeu consiste à retrouver la pièce d'époque, et donc de fouiner, encore une fois, sur le bon coin, ou chez un brocanteur, ou via un autre collectionneur. On arrive aussi à faire des échanges.
Est-ce que, donc, par rapport au vélo que tu as, là, tu couvres une jolie étendue d'années, entre les années 30 et les années 80, est-ce qu'il y a un vélo que tu recherches pour un coureur, ou un coureur que tu aimes bien et tu aimerais retrouver son vélo, ou qu'est-ce que tu aimerais dénicher dans l'immédiat ?
C'est difficile. Il y a tellement de vélos mythiques qui existent encore, qui sont encore quelque part dans une grange, et ce serait tellement génial de pouvoir dénicher, mais non, c'est toujours l'aventure quand on cherche un vélo, c'est le hasard qui fait que ce vélo-là va correspondre à la collection à laquelle on veut continuer, quoi. Mais bon, c'est...
Est-ce que, par exemple, il y a des vélos, tu vas dans des musées pour rechercher des vélos ? Par exemple, on parlait de Jeanne Christophe et de sa fourche ressoudée. Est-ce qu'il existe encore ce vélo ? On peut le voir quelque part ? La fourche ressoudée du...
Non, je pense pas.
Non. Ça serait génial de le retrouver.
Ça serait génial, mais non. Si elle existe, elle est bien conservée chez un collectionneur, mais...
Ouais, ça mériterait d'être dans un musée,
J'avais 18 minutes d'avance en haut du col du Tourmalet en 1913. Desgranges, j'avais fait un pointage, n'est-ce pas ? C'est en descendant le Tourmalet que mon tube de pivot de ma fourche a cassé et que j'ai évité la chute, mais j'ai eu de nombreux kilomètres à faire avant de trouver une petite forge à Sainte-Marie-de-Campan pour faire ma réparation. Et j'ai forgé un bout de ferraille. Oui, j'ai reforgé, c'est pas mon tube que j'ai frappé dessus, mais j'ai forgé un bout de ferraille, un boulon de 22 mm que j'ai épaulé à la forge. Ensuite, j'ai fini d'épauler à la lime, j'ai percé et goupillé pour assembler le tout. Ensuite, j'ai remonté mon vélo, la femme du forgeron m'a donné un camion de pain, j'ai rempli mon bidon un peu d'eau et je suis reparti avec voisin de 4 heures de retard. J'ai terminé le Tour de France, j'ai dans une place encore honorable. Et c'est ce qui m'a fait ma grande publicité. Je dis pas ça, c'est pour me donner des gants, mais c'est pour les jeunes gens qui peuvent m'écouter.
Champion français ? Tu es plutôt champion français ou alors parce que tu n'as pas de vélo italien dans...
Non, j'ai pas. Il me manquerait un Bianchi, un Bianchi des années 35, par exemple. Ce serait génial. Après, un coureur français que je préfère par rapport à un autre.
Que
moi, forcément, le coureur français, Bernard Hinault, c'est indéniablement le plus grand champion, je dirais. Et après, j'ai envie de dire quand même... Eugène Christophe aussi, c'est un grand champion parce qu'il avait vraiment plus de mérite encore de terminer les courses et d'arriver au bout de ce qu'il avait envisagé. Mais le courage, quand vous voyez Bernard Hinault, les photos d'archives ou les vidéos d'archives, c'est magnifique.
Ah ouais. Greg, par rapport à le côté mécanique. Donc Greg, tu es le responsable du magasin de la roue libre. Quand on voit l'évolution mécanique des pièces, est-ce que toi, ton regard de mécanicien, il y a quelque chose qui t'a intéressé plus particulièrement?
Moi je découvre complètement, c'est des mécaniques évidemment aujourd'hui que, à la fois qui n'existent plus pour certaines et puis à la fois qui sont indémodables. Hein. Le dérailleur, il a, en fait, le dérailleur arrière, il n'a pas évolué tant que ça. Quoi. Le concept est le même, le dérailleur à parallélogramme. Et puis moi ce que je trouve impressionnant, c'est des vélos qu'on s'entend et puis surtout qui roulent encore. Quoi. C'est des machines qui étaient faites pour durer, qui sont bien faites, qui étaient bien pensées.
Qui sont réparables.
Ouais, qui sont pour le coup difficilement réparables pour retrouver certaines pièces.
Mais pas très lourd. Ouais. En fait, pas très lourd. Mmh. Un vélo des années 50, il ne va pas dépasser les 11-12 kilos maximum, à peine. Mmh. Un vélo des années 20, il va faire les plus légers 12,5 kg, au plus lourd 13,5 kg, 14 kg maximum. Voilà. Mmh. C'est pas excessivement lourd.
Ah non, surtout que à l'époque, j'imagine que les revêtements, c'était pas ce qu'il y en a maintenant. Et vous avez des rencontres de collectionneurs, quelque chose d'un peu institutionnalisé, ou justement vous pouvez...
On a le site de vélo ancien qui s'appelle Tonton Vélo, c'est un peu la référence où on trouve... tout un tas d'astuces pour rénover son vélo, un tas d'informations, d'échanges, de manifestations de vélos anciens, de présentations de vélos, de plusieurs rubriques qui va de la randonneuse au tricycle en passant par le grand bi et ainsi de suite, hein, vélo de course, vélo de ville, il y a tout type de vélo sur ce site, hein, c'est Forum Tonton Vélo.
Et physiquement, vous vous retrouvez quelquefois ou alors
oui. Oui, ça arrive. On se retrouve dans des expositions comme là, ce week-end ou le week-end prochain, sans grand tarder. Là, il va y avoir une exposition de vélo au pied de l'Alpe d'Huez avec la montée de l'Alpe d'Huez en vélo ancien des années 50. Donc, c'est mon ami Paul Baruzeau qui est à l'initiative de ce projet. Et qui va certainement exposer ses vélos à Bourdoisan aussi. Donc, on se rencontre entre collectionneurs à l'issue de ces expositions. Hein.
Ouais. C'est super. Écoute, c'est super. On va mettre de toute façon tous les liens utiles que tu nous as donnés en bas de ce podcast. Donc, on va mettre les liens pour les forums de collectionneurs et puis aussi les liens pour apprendre à rénover. Si ceux qui nous écoutent récupèrent, découvrent un vieux vélo et ont envie de se lancer dans la rénovation. Et puis on se dit à très bientôt parce que je suis sûr qu'on refera une exposition bientôt avec toi sur la terrasse. C'était vraiment un chouette moment et une chouette façon de se reconnecter à la grande histoire du vélo et des grands coureurs cyclistes.
Mais avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci Thierry.